Vous rappelez d'abord que je vais parler de la sorcellerie à l'époque dite moderne, c'est-à-dire 16e, 17e et 18e siècle, avec quelques allusions à des époques plus anciennes et à des époques plus récentes. Alors, je voudrais d'abord vous dire les raisons pour lesquelles je choisis de traiter ce sujet devant vous. Et la première, c'est que je le connais un petit peu, ayant étudié l'histoire de la sorcellerie non seulement dans les ouvrages de seconde main, mais surtout dans les documents de l'époque et principalement dans les procès de sorcellerie. Et puis la seconde raison, c'est le devoir que nous avons tous, je pense, qui que nous soyons, mais surtout nous historiens, de rétablir la vérité historique. L'une des accusations portées contre l'Église, vous le savez, et contre l'ancienne société chrétienne, c'est d'avoir jugé, condamné et brûlé pour sorcellerie des pauvres gens qui n'auraient été que des agités, des malades ou des hallucinés. Les poursuites contre la sorcellerie, selon ses accusateurs, et Michelet est l'un des plus importants, avec son livre pamphlet La Sorcière, les poursuites contre la sorcellerie, selon ses accusateurs, feraient partie des manifestations de l'obscurantisme de l'Église, au même titre que l'excommunication des hérétiques ou la peine de mort contre les avorteuses autrefois. Et ces poursuites, selon ces mêmes accusateurs, auraient été innombrables, prouvant ainsi par leur fréquence l'obsession des juges et des clercs. C'est-à-dire que les juges du passé, du Moyen-Âge, de l'époque moderne, auraient été des obsédés, voyant partout des sorciers, même là où il n'y en avait pas. Alors j'ai voulu vérifier ces différents points. Les sorciers étaient-ils innocents ? Les procès étaient-ils si nombreux que l'ont dit les historiens, Michelet et les autres historiens romantiques, et les juges, ecclésiastiques ou civils, étaient-ils désobsédés? Voilà les questions que je pose. Mais d'abord, nous devons nous entendre sur les mots. Sur les mots, à cette époque dite moderne, on emploie surtout les trois mots suivants, magie, sorcellerie et possession. Alors la magie, je pense que vous savez ce que signifient ces trois termes, mais je voudrais vous dire ce qu'ils signifiaient à cette époque. On entendait par magie l'ensemble des procédés utilisés par des magiciens pour obtenir des effets extraordinaires, le plus souvent dans une intention de maléfice, de faire du mal. Le plus souvent, pas toujours. Il y avait une magie noire, une magie blanche, et dans la magie noire, le démon était censé intervenir. La sorcellerie, on entendait par sorcellerie la forme fruste, populaire, de la magie. La sorcellerie était démoniaque quand le sorcier, c'était souvent le cas en France, faisait un pacte avec le démon, passait un accord avec le démon. Le sorcier procédait aussi par sortilège, par maléfice, et pouvait nuire de cette manière. Il pouvait également provoquer la possession. Alors qu'est-ce que la possession? Je vous donne une définition du père Surin. Le père Surin, c'est un jésuite, un grand spirituel du XVIIe siècle, qui a été exorciste au procès des possédés de Loudun. Le père Surin définissait la possession de la manière suivante. L'essence de la possession diabolique consiste en une union que le diable a avec l'âme, étant insinuée dans toutes ses facultés et dans les organes du corps, et ayant le droit d'y agir comme s'il était l'âme de la personne qu'il possède. Voilà, alors cette question des mots réglés, il faut préciser aussi que la sorcellerie, mais vous le savez, est de tous les temps. Elle existait dans l'Antiquité égyptienne, dans l'Antiquité grecque et romaine. Le magicien antique donne des ordres aux divinités. Mais le magicien antique, c'est surtout une magicienne. Et disons qu'il y a deux sortes de magiciennes. Il y a la prêtresse frénétique qui fabrique des philtres avec des cadavres. Et puis, il y a la consultante, si je puis dire, en magie érotique. C'est une sorte de professionnelle vénale qui a été prostituée autrefois, que l'âge a transformée en ivrognesse et en entremetteuse, et aussi en parfumeuse. C'est très curieux. Ces prêtresses de la sorcellerie antique sont souvent, exercent aussi très souvent la profession de parfumeuse. C'est une magie, cette magie antique, c'est une magie très souvent transmutatoire. Et vous connaissez assez l'Antiquité, vous connaissez en particulier l'histoire de la magicienne Circé qui transforma en pourceau les compagnons d'Ulysse. Le Moyen-Âge, sur le Moyen-Âge, nous n'avons pas beaucoup de travaux. Nous connaissons mal la sorcellerie médiévale, surtout celle du Moyen-Âge classique, 12e, 13e siècle. Nous savons par les chroniqueurs la fréquence, l'importance de la sorcellerie sous les Mérovingiens. Quand on lit Grégoire de Tours, par exemple, on voit intervenir très souvent des sorciers. Mais c'est surtout au XIVe siècle, que la sorcellerie connaît une recrudescence très forte. Et on voit commencer au XIVe siècle, et se poursuivront au siècle suivant, toute une série de grands procès de sorcellerie où sont impliqués très souvent des grands seigneurs, souvent même des personnages de l'entourage du roi. Certains sont très connus: Enguerrand de Marigny, l'évêque de Troyes Guichard, et bien sûr le fameux Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, et qui est le fameux qui a donné naissance, si je puis dire, au personnage de Barbe Bleue. En tout cas, c'est au Moyen-Âge qu'apparaît le sorcier pactisant avec le démon. La légende du clerc Théophile illustre ce thème du pacte. C'est avec cette légende du clerc Théophile que commence le sorcier à pacte, si je puis dire. Vous connaissez cette histoire, Théophile était un clerc, cette histoire qu'on a commencé à raconter en Italie à l'époque carolingienne, à l'époque de Charles le Chauve, mais cette légende a vraiment pris forme et a été mise en forme littéraire au XIIIe et au XIVe siècle. Théophile était un clerc qui était l'économe d'un évêque. Et un jour, avait-il été un économe infidèle, l'évêque le renvoya. Théophile fut désespéré, il consulta un sorcier qui aurait été juif, mais on hésite à dire ces choses, un sorcier juif qui lui promit de le conduire à la cour de Satan. Théophile rencontra donc le prince des ténèbres et fit un pacte avec lui, un pacte écrit. Un pacte écrit peut-être même avec son propre sang. Et très peu de temps, il obtint satisfaction, l'évêque le réintégra dans ses fonctions. Mais Théophile se repentit vite. Il se repentit vite et pria la Vierge de bien vouloir intercéder pour lui et surtout pour qu'il puisse récupérer son pacte. Il avait vendu son âme au diable. La Vierge se fit prier. Elle était outragée, elle était indignée de l'outrage fait à son fils. Mais au bout d'un certain temps, Théophile récupéra son pacte. Une nuit, un matin à son réveil, il trouva sur sa poitrine la cédule du pacte que la Vierge lui avait rapporté. Voilà cette légende du clerc Théophile qui a donné lieu, vous le savez, à toute une imagerie. Voilà pour le Moyen-Âge, mais la sorcellerie, évidemment, est encore pratiquée de nos jours. Alors là, on serait intarissable, autant que pour l'époque moderne. En 1984, j'avais organisé un colloque sur l'histoire de la sorcellerie. Et j'ai, à cette occasion, consulté la presse et lu régulièrement la presse, et je me suis aperçu que la presse, si on la lit bien, livre un très grand nombre d'histoires, la presse locale ou la presse nationale, d'histoires de sorciers. Et j'avais trouvé, par exemple, cette histoire d'un ménage, Gilbert Dubois, 31 ans, et sa femme. Lui était installateur en isolation thermique dans une petite ville de l'Aude, près de Carcassonne. Et rien n'allait chez ces gens-là. Ça se passait en 1983. Rien n'allait chez ces gens-là. Les affaires ne marchaient pas, la santé était mauvaise, les relations Enfin, on ne se faisait pas de relation. Alors, ils consultèrent une certaine Michèle Forissier. Elle a été condamnée, donc on peut en parler. Une certaine Michèle Forissier, qui était une courtisane de Carcassonne, c'est ainsi que la qualifiait la presse locale, et magicienne, elle s'intitulait aussi magicienne. Elle avait 23 ans. Et elle donna sa recette. Il fallait déterrer un mort dans un cimetière, un cadavre, et puis alors dépecer ce cadavre, excusez-moi, placer les petits morceaux dans des cercueils miniatures et arroser le tout de sang de mouton. Alors, l'affaire, enfin bien sûr, ce pauvre Dubois et sa femme ne recouvrirent pas la santé, les affaires n'allèrent pas mieux, mais Michèle Forissier et les deux époux furent arrêtés et inculpés pour violation de cimetière, et non pas pour sorcellerie. On pourrait raconter quantité d'histoires, j'y reviendrai tout à l'heure à propos en faisant des comparaisons. De toutes les sorcelleries, cependant, celle des temps modernes est celle qui a le plus retenu l'attention des historiens. Et il y a à cela deux raisons. La première, c'est que c'est une sorcellerie spectaculaire. Et la deuxième, c'est que cette sorcellerie a un caractère criminel. Elle est spectaculaire parce que elle se manifeste souvent sous la forme d'épidémie. Tout d'un coup, une région toute entière est infestée de sorciers. Cela s'est passé au XVIIe siècle dans plusieurs provinces de France, dans le Labourg, c'est le sud-ouest, dans la Franche-Comté, qui n'est pas si loin, dans la Lorraine. Il y a eu une espèce de contagion de sorcellerie, les affaires sont très nombreuses, on découvre des sorciers partout, et les juges ont beaucoup de travail. Elle est spectaculaire aussi parce que les grands de ce monde sont souvent impliqués dans ces affaires. Il y a une sorcellerie rurale, mais il y a aussi une sorcellerie citadine, une sorcellerie au palais royal, à la cour de Versailles. Et l'affaire la plus connue, c'est la fameuse affaire des poisons, qui a commencé en 1677 et s'est achevé en 1680. Madame de Montespan et plusieurs grandes dames de la cour et grands seigneurs ont été, vous le savez, impliquées dans cette affaire des poisons. Enfin, elle est spectaculaire parce que elle est conjointe avec des affaires de possession. Ces sorciers de l'époque moderne sont à l'origine de phénomènes de possession. Ils appellent le diable. Et ce diable s'empare de ses victimes. Il y a des possédés, donc victimes des sorciers. Or, ces possédés sont très souvent des religieuses. Et même le plus souvent, ce sont des religieuses de couvents réformés, de couvents qui viennent souvent d'être réformés. Voilà les raisons pour lesquelles cette sorcellerie peut être considérée comme spectaculaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les historiens qui s'y soient intéressés. Des romanciers aussi se sont intéressé à ces affaires de sorcellerie du XVIIe siècle, et je pense en particulier au roman d'Aldous Huxley, Les Diables de Loudun. C'est très intéressant, c'est très amusant, mais il n'y a pas un mot de vrai. Hein. Enfin, si, quand même, il y a peut-être quelques mots, mais l'ensemble est complètement faux, et l'interprétation d'Aldous Huxley est extravagante. Et plus récemment, une romancière que j'estime, Madame Ère-Marie Vieille, a publié un livre sur l'affaire des poisons, où elle raconte en particulier l'histoire de Marie Daubray, l'une des empoisonneuses qui assassina non seulement son mari, mais aussi son beau-père. Voilà une raison pour laquelle la sorcellerie retient l'attention des historiens, la sorcellerie des temps modernes. Mais l'autre raison, c'est qu'elle est un crime. Elle est un crime. Elle a un caractère criminel. Elle est un des crimes justiciables de l'Inquisition, là où l'Inquisition existe. Elle n'existe pas dans le royaume de France, mais elle existe en Avignon, elle existe en Espagne, elle existe en Italie. Et là, la sorcellerie est un crime, et les inquisiteurs le jugent. Il y a des lois civiles nombreuses en Europe occidentale au XVIe siècle, des lois nouvelles au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle réprimant la sorcellerie. Et je pense en particulier aux statuts anglais, aux lois anglaises de 1542, de 1563, de 1604, qui répriment la sorcellerie. Ces lois en Angleterre sont très nombreuses parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie en Angleterre, surtout après la réforme, et le pouvoir central semble préoccupé. le statut de 1604 punit de mort les maléfices portant atteinte aux biens et aux personnes. En France, il n'y a pas de loi à proprement parler contre la sorcellerie. Alors donc, il n'y a pas de crime, puisque selon le droit pénal, il n'y a pas de crime sans loi. Mais il n'y a pas de loi, mais il y a une jurisprudence. Et la jurisprudence, une jurisprudence longue et confirmée, tient la sorcellerie pour un crime et pour un crime abominable. La sorcellerie est criminelle pour la justice. Pourquoi ? Parce que l'Église en ordonne la punition. Et je pense en particulier à la bulle Scheli et Terré de janvier 1585, ordonnant aux autorités ecclésiastiques d'enquêter et de punir, qu'ils enquêtent diligemment et procèdent et punissent sévèrement des peines canoniques et autres peines à leur estimation, tous les sorciers. Donc, il y a un acte de l'autorité pontificale prescrivant aux autorités, bien sûr, aux justices ecclésiastiques, aux justices d'église, mais aussi aux justices civiles, de poursuivre les sorciers et de les punir. La pénalisation de la sorcellerie, donc, à l'époque moderne, l'a fait paraître au grand jour. Pendant l'Antiquité et aujourd'hui, être sorcier n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Les sorciers ne sont pas recherchés. Ils ne laissent donc pas de traces. Quelquefois, on punit des sorciers, mais d'une manière indirecte. Les sorciers ont porté atteinte à la santé publique en ordonnant des filtres qui sont dangereux pour la santé, ou bien parce qu'ils ont prescrit ou ils ont eux-mêmes violé des sépultures, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ou bien parce qu'ils ont escroqué leurs victimes en leur demandant beaucoup d'argent pour des services que les magistrats estiment nuls. Je vous donne l'exemple d'une sentence rendue par le tribunal correctionnel de Caen en 1966. Une guérisseuse, en 1966, fut condamnée à Caen pour exercice illégal de la médecine. Elle avait essayé, nous dit l'arrêt, de se débarrasser de maux divers et hallucinations, de leurs maux divers et hallucinations, les habitants d'un petit village de Normandie. Ces gens ressentaient de l'eczéma, des douleurs d'estomac, le bétail était malade, et ils avaient des hallucinations. Et la palme revenait à l'un des habitants de ce petit village, le fermier B, l'arrêt ne donne pas son nom, qui voyait passer devant sa maison des diables à cornes de cuivre en mobilette. Alors là, évidemment, c'était lui le plus malade, le plus touché. Alors une guérisseuse avait été engagée. Elle avait prescrit des remèdes, des potions herbacées, qui avaient fait beaucoup plus de mal que de bien. Et le tribunal, donc, correctionnel, condamne cette guérisseuse, non pas pour exercice de la sorcellerie, mais pour atteinte à la santé publique. Donc, la justice rattrape quelquefois la sorcellerie. Elle la rattrape, mais elle ne la considère pas comme un délit. Voilà les raisons pour lesquelles la sorcellerie des temps modernes est plus importante, retient davantage l'attention des historiens que les sorcelleries des autres périodes. Et pourtant, il ne me semble pas qu'elle soit beaucoup plus importante que la sorcellerie de l'Antiquité ou que la sorcellerie de nos jours. Nous pouvons maintenant, grâce aux recherches qui ont été faites, recherches patientes, nous faire une idée de l'importance de ce phénomène. Je vous donne quelques chiffres. Vous voyez, les affaires jugées au Parlement de Paris, juridiction d'appel, qui couvre à peu près le tiers du Royaume de France, pour la période 1565-1640, à peu près un siècle. Combien d'affaires jugées au Parlement de Paris pour près d'un siècle ? 750 en appel, pour une population de 8 millions d'habitants. Je prends l'exemple de la Flandre et du Hainaut. Pour la période 1500-1679, on a compté pour cette période, et c'est une région qui, nous dit-on, est fertile en sorcellerie. Eh bien, il y a 274 procès pour une période de près de deux siècles. Je prends l'exemple du comté d'Essex, en Angleterre. 1560-1660. C'est un comté qui a été étudié très attentivement par l'historien anglais Macfarlane. 544 personnes interrogées. On ne dit pas combien de procès. 544 personnes interrogées au sujet de la sorcellerie. Non, c'est pas plus. Et enfin, l'Inquisition de Tolède, car dans les pays qui ont l'Inquisition, c'est l'Inquisition qui s'occupe de ce crime. L'Inquisition de Tolède, pour un siècle, 1551-1651, 152 procès de sorcellerie, en un siècle. C'est-à-dire 1% seulement des procès intentés par cette juridiction. 1%. Toutes les autres affaires sont soit des affaires alors d'hérésie, d'hétérodoxie, ou des affaires de mœurs, mais non pas des affaires de sorcellerie. Alors je hasarde une approximation. Je dirais que nous avons peut-être, en Europe occidentale, une affaire par an pour 500 000 habitants pendant la période considérée. Une affaire par an pour 500 000 habitants. Voyez que on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que la justice d'alors était obsédée par la sorcellerie. Il n'est pas sûr du tout que les sorciers aient été plus nombreux à cette époque qu'ils le seront plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait plus de bruit. Ça, c'est certain. Et nous allons maintenant voir comment ils ont fait du bruit. Alors, je voudrais d'abord classer très rapidement les différentes catégories d'activités. Magie blanche, guérisseur, charlatan, gens retrouvant les objets perdus. En Angleterre, cette catégorie-là, les magiciens blancs ou la magie blanche, au XVIe et XVIIe siècle, est très répandue. Il y a un sorcier par village dont c'est la profession. Bon, il retrouve les choses perdues, c'est, il voulait, un peu le Saint-Antoine. Mais il n'y a plus de Saint-Antoine, puisqu'il y a eu la réforme anglicane. Alors, il faut bien le remplacer d'une manière ou d'une autre. Et alors, ces cunning folk, comme on dit, witch funders, sont chargés de rendre ce genre de service. Un peu de voyance aussi, les cartes, le marc de café, enfin des choses de ce genre. Je monte dans l'échelle alors de gravité. Ensuite, nous trouvons ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie érotique. Alors là, nous retrouvons la magicienne antique. Ce type se trouve surtout en Italie du Sud, en Andalousie. C'est la strega du sud de l'Italie, pourvoyeuse de plaisir, servante d'Eros. On la trouve souvent dans le théâtre et dans le roman. Parmi les affaires jugées à Tolède en 1575, je trouve plusieurs personnes qui rentrent dans cette catégorie. Je trouve en particulier une guérisseuse, parfumeuse, vous voyez encore, parfumeuse, et qui, on appellerait aujourd'hui esthéticienne. Il paraît qu'elle réformait les nez, on nous dit ça, elle réformait les nez. Et alors, elle rendait des services aux femmes qui trouvaient que leur mari, enfin, ne les honorait pas suffisamment. Et alors, l'Inquisition l'a condamné à 3 mois de prison. Vous voyez, ce n'est pas quand même un délit très, très important. Je monte encore et je trouve la sorcellerie à maléfice. Un maléfice, alors, donc dangereuse. Le sorcier est essentiellement ici un envoûteur. Il rend malade, il peut faire périr les récoltes, les animaux et même les personnes. Je prends un exemple dans le comté d'Exeter, en Angleterre. Au début, dans la période de 1560-1565, on juge plusieurs sorcières et il y en a 3 qui sont jugées dans ce comté, qui sont Marjorie Stanton, Alice Knox et Ellen Smith. Ellen Smith envoûte un enfant et cet enfant meurt le lendemain. Marjorie Stanton tourmente un homme, tue des poulets et change en eau le lait des vaches. Et la troisième, Alice Knox, envoûte une femme qui était sa rivale et la fait mourir. Pas de relation avec le diable. On n'en parle pas. Condamnation, condamnation à mort pour les deux premières, pour la première et la troisième, et condamnation à une lourde peine de prison pour la seconde. Pas de relation avec le diable. Il ne semble pas que ces sorciers anglais à maléfice fassent des pactes. Par contre, la sorcellerie française et flamande est peut-être caractérisée de la manière suivante. C'est une sorcellerie à pacte, à sabbat et à sortilège. Je prends l'exemple des 4 sorcières de Bouvigny dans le Nord, qui sont jugées et condamnées au feu en 1679. Un historien français leur a consacré un livre intitulé « Les derniers bûchers ». Bien, ces 4 sorcières se ressemblent. Un jour, elles ont rencontré le diable. qui leur a proposé de les aider, de leur procurer ce qu'elles voulaient. Elles ont fait un pacte avec lui. Ensuite, elles sont allées au sabbat. Elles ont envoûté des personnes qui étaient leurs ennemis. Et elles réalisent donc tout à fait le type de la sorcière à maléfice et à pacte et à sortilège. Et à sabbat. Enfin, il y a une catégorie mixte. Alors là, nous sommes au sommet avec le pacte, le sabbat et les sortilèges. Il y a une catégorie mixte, si j'ose dire. C'est... On la trouve dans l'affaire des poisons. La fameuse voisin, l'empoisonneuse chef de l'affaire des poisons, appartient un peu au type de la guérisseuse antique, de la magicienne érotique du sud de l'Italie, de l'envoûteuse anglaise. Vous savez que cette voisin était spécialisée en particulier dans l'avortement et on retrouva les restes de près de 2500 fœtus, n'est-ce pas, dans le jardin de la voisin. Faisait ça sur une grande échelle. Elle fabriquait aussi des filtres d'amour et l'on disait chez elle des messes noires. L'abbé Guibourg disait chez elle des messes noires. Voilà les principales catégories d'activité, mais je pense que si on veut bien connaître une profession, il ne suffit pas, bien sûr, d'en délimiter la compétence. Il faut encore l'étudier dans l'exercice de ses fonctions, c'est ce que nous avons fait. Alors le mieux pour étudier la profession de sorcier au XVIIe, au XVIe, XVIIe siècle, bien, ce serait d'avoir évidemment le journal d'un sorcier, où ce sorcier écrirait tous les jours, eh ben voilà, aujourd'hui j'ai maléficié telle personne, la nuit dernière j'étais au sabbat, et ainsi de suite. Et malheureusement, nous n'avons pas ce journal, nous n'avons aucun journal, et d'ailleurs beaucoup de sorciers ne savaient pas écrire. Les sorciers de campagne ou les sorcières de campagne ne savaient pas écrire. Mais nous avons les témoignages rendus par les sorciers eux-mêmes au cours de leurs interrogatoires, pendant leur procès. Ces interrogatoires des sorciers et des sorcières sont des documents très proches des faits. Alors bien évidemment, si ces confessions étaient obtenues, si ces confessions des sorciers lors de leurs interrogatoires étaient obtenues par la contrainte, par la torture, elles n'auraient aucune valeur pour nous historiens. Nous ne pourrions pas en tenir compte. De même, si les interrogatoires étaient menés de manière machiavélique, très habile, très contraignante, nous ne pourrions pas non plus en tenir compte. Or, notre chance, c'est que la torture est relativement peu employée. Je dirais même très peu employée. Au Parlement de Paris, d'après Alfred Saumand, qui n'est pas du tout, qui ne s'est pas du tout donné pour mission la même que la mienne, hein, pas du tout. Pour lui, il ne s'agit pas du tout de rétablir la vérité historique sur les procès de sorcellerie et sur l'Église. D'après Alfred Saumand, historien contemporain, très peu de cas d'aveu obtenus par la torture. Très peu. En Angleterre, pas une torture, pas un seul emploi de la torture dans les affaires étudiées dans le comté d'Exeter par Macfarlane. Parmi les 2354 procès étudiés de l'Inquisition de Tolède, étudié par l'historien espagnol Carcel, Ricardo García Carcel. Affaires de toutes sortes. 12 procès seulement, avec application de la torture, sur 2354 procès. On peut donc parler, en règle générale, d'aveu spontané. Il n'est pas permis toutefois, je pense, de parler de spontanéité parfaite, totale, à cause de la prison. La prison, je pense, avait un effet, enfin j'en suis même certain, un effet persuasif et contraignant, surtout quand les malheureux, n'est-ce pas, ou les malheureuses restaient enfermés plusieurs semaines, quand on les extrayait de là pour les faire comparaître devant les juges, Mais il n'était plus tout à fait libre, si j'ose dire, et très affaibli, donc porté à entrer un peu dans le jeu des magistrats. Et leurs aveux ne restent pas donc entièrement spontanés. Mais c'est très rare, un très long séjour en prison. Ça arrive, mais voyez, les quatre sorcières de Bouvigny sont jugées, dont je vous parlais tout à l'heure, sont jugées 8 jours après leur entrée en prison. On peut donc, compte tenu de cette réserve que je viens de faire, ajouter un certain crédit aux interrogatoires. C'est pourquoi j'ai toujours voulu laisser de côté les ouvrages de seconde main, tout ce qui avait été écrit sur la sorcellerie. J'ai préféré toujours aller aux procédures et consulter les interrogatoires. Ce n'est pas très facile parce que ce sont des écritures difficiles à lire. Pour certaines justices ecclésiastiques rédigent en latin. Bon, mais je crois que cela vaut la peine car nous avons là des sources fraîches. Alors j'ai étudié ces dernières années plusieurs procès en Franche-Comté, à Saint-Claude en particulier, plusieurs procès en Lorraine. J'ai étudié des procès en Anjou également, l'affaire Gruau en 1508. J'ai étudié enfin l'affaire Delenau, qui est jugée à Autun, qui est jugée à Dijon, pardon, en 1624. Et c'est de cette affaire dont je vais vous parler. Je voudrais en effet concentrer mon attention d'abord sur les procès de sorcellerie et puis sur les procès de sorcellerie liés aux affaires de possession. Nous laisserons de côté, si vous voulez bien, les affaires de magie, que je connais d'ailleurs beaucoup moins bien. Cette affaire Delenau, Philibert Delenau, peut servir de modèle. Philibert Delenau est arrêté en 1624 à Autun pour sorcellerie. Le 15 février 1624, le juge ecclésiastique d'Autun, l'official, est saisi d'une dénonciation contre Philibert Delenau, prêtre et curé d'une petite paroisse du Morvan, Brazet. L'official fait saisir ce prêtre au corps, comme on disait alors, et emprisonné. Et le 2 avril, il l'interroge et sur ses aveux, il le dégrade et le remet au bras séculier. Le 12 avril commence un second procès devant la justice royale. Les témoins défilent pendant 3 jours. Le 16 avril, Philibert Delenau est condamné au feu. Mais je ne connais pas la fin de l'histoire. Je ne suis pas certain qu'il ait été brûlé. J'aurais voulu avoir un procès verbal, mais je n'ai pas trouvé ce procès verbal d'exécution. Donc il n'est pas certain que la sentence ait été exécutée. Philibert Delenau reconnaît lui-même sans torture, et l'interrogatoire étant mené avec la plus grande modération, être magicien et sorcier. Alors, qui est ce sorcier? C'est un prêtre depuis 48 ans. Il a des concubines depuis 47 ans. Et 7 enfants. Et 7 enfants qu'il a reconnus et dont il s'occupe et qui vivent avec lui. Il a donc un étrange personnage. En quoi, d'après ses aveux, consiste sa sorcellerie? Eh bien, d'abord, l'alliance avec le diable. C'est le pacte. Un jour, il a rencontré le diable. C'était en 1590. 34 ans auparavant. On a mis du temps à s'apercevoir qu'il était sorcier, celui-là. Un jour, raconte-t-il, il rencontra un gentilhomme passant qui lui dit qu'il le rendrait heureux et qui lui donna des caractères. Caractères sont des formules magiques pour l'invoquer. C'était le diable. Alors, muni de ces caractères, il invoque le diable et vous savez ce qu'il lui demande? Il lui demande d'être heureux à la chasse. Ce que le diable satisfait, c'était vraiment une petite chose. Donc il fut heureux à la chasse. En quoi consiste exactement ce pacte? Le diable a exigé la renonciation à Dieu, crème, le saint crème, et baptême. Je lis le folio 92 de la procédure. En qui, quand il fit le dit pacte, quelle promesse il fit au diable, et en quelle posture et situation il se mit? Répond que lui fit renoncer à Dieu, crème et baptême. Là-dessus, on recherche la marque. On croyait que les sorciers possédaient, avaient une marque, c'est-à-dire un endroit insensible du corps. Lorsqu'on trouvait la marque, eh bien, on était sûr qu'il s'agissait d'un sorcier. Alors, on piquait le malheureux, n'est-ce pas? Ce n'était pas très amusant pour lui. On le piquait jusqu'à ce qu'on trouve la marque et quelquefois, on ne la trouvait pas. Il n'y a pas de marque. Delenau n'en porte pas. Deuxième élément important, la participation au sabbat. après l'alliance avec le diable. En qui s'il a été en l'assemblée des démons, et qu'est-ce qu'on y faisait? Répond que oui. Comment y a-t-il été transporté? Que le démon le transporta en des lieux étranges et éloignés, où il se voyait de la clarté et où l'on faisait de grandes fêtes. Pense-t-il y avoir été réellement? Répond que quelquefois, il y était en personne et en corps, et qu'il le croit parce qu'il était peu après extrêmement lassé, en sorte qu'il était 2 ou 3 jours sans pouvoir manger, et quelquefois qu'il y était en esprit. Que se passe-t-il pendant le sabbat? Demandent alors les juges. Alors nous pouvons, d'après les réponses, reconstituer cette fête satanique très rapidement. La danse, d'abord, quand on arrive, il y a plusieurs personnes là, et entre parenthèses, j'ouvre cette parenthèse, ces gens, souvent, le sorcier les connaît, et à l'audience, il va être sollicité par les juges de savoir, de leur dire qui était là. Et de cette manière, on va connaître les complices, et on va remonter, on va arrêter d'autres personnes. Donc on commence par la danse, qu'il dansait. Vient ensuite l'adoration du diable, puis... Je cite le condamné, enfin le prévenu, puis allait adorer le démon qui était en forme de bouc, ayant chacun à la main une chandelle noire. Et dans d'autres interrogatoires, cette chandelle noire, eh bien, elle donne une lumière bleue. Chacun portait une chandelle noire en sa main, la lumière de laquelle était bleue. Et il le dit également ici. Puis on baisse le derrière du diable, puis on fait le serment au diable. Il nous demanda de jurer et promettre toute fidélité et obéissance. Puis vient le repas. Il y a un repas dans tous les sabbats ou presque, qu'il y avait toutes sortes de viandes qui étaient froides et insipides et que l'on n'y buvait point de vin. Oui, ces repas des sabbats sont un peu piteux. C'est pas bien, ça n'a pas de goût. Et souvent c'est mal présenté. Et là, il nous dit que les viandes étaient posées par terre, sans table ni nappe. Y a-t-il des orgies? Bien, dans ce sabbat de Delenau, il n'y a pas d'orgie, il y a simplement une danse. Il y a 3 fois autant de femmes que d'hommes, dit-il. Voilà le deuxième élément de la sorcellerie de Delenau. Et le troisième, ce sont les sortilèges, ce sont les maléfices. Il possède des caractères par lesquels il peut invoquer le démon. Et comment se présentent ces caractères? Eh bien, il en décrit un. Il décrit un caractère en forme de triangle, je ne sais pas si ce document a été produit devant un tribunal, un caractère en forme de triangle, reconnu par le défendeur avoir été écrit et signé de sa main, et commençant par le mot Belzébuth et finissant par le mot Tétagrammaton. C'est donc un écrit. Et avec ce caractère, il peut invoquer le diable, mais il peut aussi conjurer les effets néfastes des autres sorciers. Il peut être anti-sorcier grâce à ce caractère. Et c'est intéressant ça parce que il y a une catégorie de sorciers dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle les anti-sorciers. On les trouve très rarement en France, en Italie, en Espagne, mais on en trouve en Europe centrale. Et ils ont été étudiés en particulier en Roumanie. Voilà ce sorcier de l'eau. Alors comment peut-on être prêtre et sorcier? Eh bien, il semble qu'il s'accommode assez bien des deux professions. Hein. Voilà ce qu'il répond. Qu'il a fait convention avec le diable et que depuis il a vécu comme un athée, mais qu'il n'a jamais perdu la foi. Qu'il n'a jamais perdu la foi. Et ça, c'est une caractéristique des sorciers, des possédés aussi, bien sûr. Ils ne perdent pas la foi. Et ils gardent la foi. C'est très frappant. Alors, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que c'est un cas représentatif, ce de Delenau? J'ai choisi comme modèle. Non, il y a des éléments. Enfin, est-ce qu'il est parfaitement représentatif? Non, parfaitement non. Car il y a des éléments qui manquent et que l'on trouve dans d'autres procès de sorcellerie. En particulier, nous ne trouvons pas ici la marque, je vous le disais tout à l'heure. On la trouvera, nous la verrons tout à l'heure dans le procès d'Urbain Grandier, le sorcier de Loudun. Et puis, il n'y a pas ce départ au sabbat par la cheminée, mais oui, que l'on trouve dans beaucoup d'autres procédures. Le plus souvent, cela se passe de la manière suivante. Je prends par exemple le cas de Mathurin Gruau, arrêté pour sorcellerie en 1508 en Anjou. C'est un compagnon, un brassier, travaille au jeu. Il raconte à son procès qu'un beau jour, il était en train de travailler avec ses voisins, les chasse-boeufs, monsieur et madame, faisaient des charrois. Et puis, il faisait chaud, vers midi, on s'arrête, et madame chasse-boeuf a apporté un pique-nique. Alors, les voilà tous les trois en train de manger, et il y avait une boîte de beurre. Et on est dans l'Ouest, on mange beaucoup de beurre. Et notre gruau, lui, il se prend une bonne quantité de beurre. Puis après, il est terriblement malade. Ils se disent, c'est le beurre. Et comme la chasse-boeuf a réputation de sorcière, il se dit, il y a quelque chose. Alors le lendemain, il la rencontre, seule, sans son mari, il lui dit, si tu sais quelque sorcerie, il faudrait que tu me l'enseignes. Alors elle lui dit, viens dans 3 jours chez moi, à 10h du matin, mon mari ne sera pas là, je te donnerai une boîte de graisse. Une boîte, comme on dit dans l'Ouest. Une boîte de graisse. Alors il y va, elle lui donne une boîte de graisse, et elle lui dit tout de suite, enlève ta chemise. Il se graisse sur ses instructions, elle en fait autant, et les voilà qui montent sur des balais et qui passent par la cheminée. Et ils s'en vont au sabbat. Et c'est raconté au procès, mais d'une façon très... Enfin, on croirait que c'est arrivé. Ça vous fait rire. Mais c'est écrit. Ils prirent chacun un balai, firent 3 tours sous la cheminée de la dite maison, et après qu'ils eurent fait les 3 tours, laissèrent les balais, et allèrent dans le vent, et tournèrent par-dessus les haies et les buissons, tellement qu'il y avait grand bruit de vent. Partout où ils passaient, il leur semblait que le vent les emportait très loin, et que la pointe des arbres allait aux pieds. Ils allèrent jusque bien loin, et plus de 100 lieues, ainsi qu'il lui semble, tellement qu'ils se trouvèrent au milieu d'une grande lande, où ils ne voyaient bêtes ni gens. Et dit qu'alors qu'ils furent dans la lande, il vit 2 diables, dont l'un était vêtu avec un habit noir, tout velu, à poils longs et cornu de 4 cornes. Bon, et voilà, il continue, n'est-ce pas, il va raconter le sabbat. Ils sont très loin, puis après ils vont venir, et il se dira très fatigué, lui aussi, après toutes ces affaires, tout ce sabbat. Voilà. Donc, il n'y a dans l'affaire de Leneau ni la marque, ni le graissage. Mais... quand même, cette affaire de Leneau me paraît très représentative, et je pense que on peut, avec certains autres procès, en la rassemblant avec d'autres affaires, déterminer les caractères permanents de la sorcellerie de cette époque. C'est-à-dire essentiellement des aveux libéralement faits, sans contrainte. La rencontre du diable, la première rencontre. Très important, cette première rencontre. Généralement, le diable a pris la forme soit d'un gentilhomme, très beau, on le rencontre dans un chemin, dans la rue, ou d'une demoiselle très séduisante. Et ainsi, par exemple, Étienne Larchillon, à Douai, en 1603, fait la rencontre d'une demoiselle, qui est en fait le diable, et qui lui promet toutes sortes de bonheur et de prospérité s'il consent à renoncer à Dieu, crème et baptême. Donc cette rencontre est très importante. Ensuite, vous avez le sabbat, et enfin, vous avez les sortilèges. Les marques sont également assez fréquentes, bien qu'il n'y ait pas de marques dans l'affaire de Léon. Alors j'arrive maintenant au procès, aux affaires de possession démoniaque. Ces affaires, ce sont des affaires toujours mêlées avec les affaires de sorcellerie. Il y a le sorcier, et il y a les religieuses possédées. On connaît plusieurs de ces affaires. On les connaît même très bien, ces affaires de possession. Il s'agit toujours de religieuses. Le sorcier qui a envoûté les religieuses, c'est le plus souvent un prêtre confesseur de ces religieuses. Il s'agit donc presque toujours de religieuses et de religieuses réformées. Principales affaires connues à Aix-en-Provence en 1611, à Loudun en 1634, à Louviers en Normandie en 1643, et à Lille, entre 1608 et 1614. Alors, je regarde simplement très rapidement 2 de ces affaires. D'abord, l'affaire d'Aix-en-Provence. Il s'agit d'un couvent d'Ursulines. Les Ursulines sont un ordre réformé, enfin un ordre nouveau, imbu de l'esprit du Concile de Trente, fondé par le grand spirituel provençal César de Buse. Et ces religieuses ont ceci de très nouveau, qu'elles vont faire l'école, et qu'elles s'occupent des petites filles, qu'elles font la classe, tout en menant, par ailleurs, une vie contemplative. Ils sont à la fois contemplatives et actives, ce qui n'est pas facile. Et l'une des religieuses de ce couvent, de ce nouveau couvent, Madeleine de la Palue, fille de gentilhomme, manifeste en 1609 des hallucinations diaboliques et des terreurs nocturnes. Aussitôt, les exorcistes s'en occupent, elle est exorcisée, et on découvre qu'elle est habitée, possédée par un diable qui dit son nom, « Je m'appelle Vérine ». Et ce Vérine fait toutes sortes de révélations. Il dit que son intention et celle de la troupe des démons était de détruire la nouvelle compagnie de Sainte-Ursule. Les plus grands exorcistes ont été mobilisés, et en particulier le père Sébastien Michaelis, grand spécialiste du diable. Il procède et assez... il aime bien les exhibitions publiques. Il fait ses exorcismes en public à la Sainte-Baume. Et alors une foule considérable vient assister à ses séances. On parlait dans toute la Provence, jusqu'en Italie. Et on dit même que des Italiens, des Piémontais, étaient venus assister à ses exorcismes. Et très vite, le diable Vérine révèle le nom du responsable, du sorcier envoûteur, c'est Goffredi. L'abbé Louis Goffredi, curé des Accoules, et qui avait déjà d'ailleurs une petite réputation de sorcier. Et alors très vite, n'est-ce pas, ce Goffredi est arrêté, livré au bras séculier, condamné à mort et brûlé. La deuxième affaire, beaucoup plus célèbre, est l'affaire de Loudun, 1634. Loudun, à cette époque, c'est une ville assez importante. Aujourd'hui, c'est une petite bourgade. C'est bien que M. Monory en est le maire, mais enfin, ce n'est pas une raison suffisante. Et donc, Loudun, aujourd'hui, c'est quasiment rien. Mais à cette époque, c'était une ville assez importante. Il y avait 14 000 habitants, pensez. C'est assez important à cette époque. Il y avait surtout un château, une citadelle très forte, dont Richelieu, d'ailleurs, va ordonner la démolition. Et les deux protagonistes de cette affaire de Loudun, vous avez le curé et vous avez le couvent d'Ursuline. Le curé de Saint-Pierre, il n'y a qu'une paroisse, est Urbain Grandier. Urbain Grandier, qui n'est pas du pays, il est originaire de la province du Maine, aujourd'hui département de la Sarthe, et pour cela, les gens de Loudun ne l'aiment pas beaucoup. Mais enfin, il est, dit-on, beau, de belle prestance, docte, bon prédicateur et bien disant. Puis, il a la parole facile, il fréquente les personnalités de la ville, et en particulier l'érudit Sévold de Sainte-Marthe, qui est un grand érudit de l'époque. Il va au château, il est reçu partout par les magistrats. Alors, il se fait des jaloux. D'autant plus qu'il a des aventures, il n'a pas de bonne humeur, ce curé de Saint-Pierre de Loudun. Il a des aventures féminines, des aventures amoureuses, il séduit plusieurs jeunes filles. Elle lit des romans, ce qui n'est pas bien pour une religieuse ursuline, hein, elle lit des romans. Elle est aussi très portée vers la mystique, ce qui est très très bien, mais enfin peut-être, est-ce que ça lui dérange un peu le cerveau? Elle est un peu trop mondaine, elle reçoit beaucoup dans son couvent. Comment se déclenche cette affaire? Le confesseur des religieuses meurt en 1631. Il s'appelait le chanoine Mignon. Et alors les religieuses sont désemparées. Qui vont-elles prendre? Alors elles se disent, mais Grandier! Elles veulent Grandier comme aumônier, comme confesseur. Parce qu'à ce moment-là, l'aumônier est aussi confesseur. Alors elles demandent Grandier. Et Grandier dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors elles ne sont pas contentes. Solide animosité à l'égard de Grandier. Elles prennent un autre confesseur qui est un vieux chanoine, un chanoine très bien, mais enfin qui n'a pas la prestance d'Urbain Grandier. Et c'est peu de temps après que les 17 religieuses du couvent manifestent des signes de possession. Alors bon, d'abord, ce sont les exorcistes qui interviennent. Mais alors, ces religieuses se déchaînent, les séances sont épouvantables, il y a des phénomènes de lévitation, des religieuses qui montent jusqu'à la voûte, enfin c'est effrayant. Alors on fait appel aux plus grands spécialistes français d'exorcisme, et on mobilise en particulier la compagnie de Jésus. Plusieurs jésuites vont venir, et en particulier le père Surin que je citais tout à l'heure, lequel va s'épuiser dans ses séances d'exorcisme. Il arrivera à certains résultats, mais lui-même sera victime d'obsession démoniaque au point qu'il essaiera en 1637 de se suicider. Il ne sera délivré que 2 ans après. Donc exorcisme, et les diables parlent et dénoncent. Et dénoncent comment dire ? C'est lui le sorcier, c'est lui qui a envoûté les religieuses, c'est lui qui a appelé le démon. Les diables sont extrêmement loquaces à ce sujet. Alors, on arrête Grandier. La justice royale est saisie, et très peu de temps après, Grandier est convaincu de sorcellerie et condamné au feu. On conclut donc d'une part à la possession. Les exorcistes concluent à la possession. Ils en ont 3 preuves indubitables. La glossolalie, les religieuses possédées parlent toutes les langues. On est même venu de Turquie pour les interroger. Elles parlaient le turc, ou plutôt les démons par leur bouche. La révélation des choses cachées et la lévitation. Jeanne des Anges a été élevée à 12 mètres de hauteur, la mère Jeanne des Anges. Quant à la sorcellerie, elle ne fait aucun doute. Grandier est condamné et exécuté devant 6000 personnes le 18 août 1634. Et pourtant, la possession ne cesse pas. Et il faudra encore attendre 2 années pour voir partir les démons, 1636 seulement, et il y aura encore le sacrifice du Père Surin jusqu'en 1638. C'est une affaire donc très, très grave, très importante, qui a secoué la France. Et il faut quand même observer que Grandier n'a pas fait d'aveu. C'est une des rares affaires où le sorcier n'avoue pas. Il n'a jamais avoué. Il a toujours plaidé son innocence. Alors, peut-être magicien, mais surtout agnostique, surtout athée. Il a refusé les consolations de la religion avant d'aller au supplice. Ça a beaucoup frappé, évidemment, les contemporains. C'était une chose extrêmement rare. Voilà ces 2 affaires de possession. On ne peut s'empêcher de remarquer qu'elles se produisent au moment où les monastères se réforment et où la discipline réformée du Concile de Trente commence à s'imposer. Alors maintenant, quelques mots pour finir au sujet de l'interprétation de tout cela. Alors je pose 3 questions. La première, quelles sont les doctrines qui sont reçues à cette époque concernant les phénomènes diaboliques ? D'abord, la doctrine de l'Église, doctrine de saint Thomas d'Aquin essentiellement, et la doctrine de saint Thomas est très restrictive en ce qui concerne les pouvoirs des démons. Les démons, dit saint Thomas, ne peuvent pas connaître les futurs contingents, ni les choses totalement cachées, ni le secret des cœurs. Ils ne peuvent pas se métamorphoser. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est prévoir l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus d'expérience que les humains. Ils sont là depuis très longtemps. Alors, ils ont vu beaucoup de choses, et en vertu de cette expérience, ils peuvent prévoir, ils peuvent faire de la prospective, en quelque sorte. Quant aux sorciers, saint Thomas nous dit qu'ils ne peuvent maléficier qu'en utilisant les forces occultes de la nature. Donc, pour le docteur Angélique, très forte restriction, et d'ailleurs pour lui, beaucoup de phénomènes produits sont dus à des hallucinations. C'est tout subjectif, ce n'est pas réel. Saint Thomas, toutefois, est l'un des plus restrictifs. Saint Augustin l'est beaucoup moins. Il admet que les démons puissent se métamorphoser. Et 2 grands théologiens du XVIe siècle, Vittoria, théologien de Salamanque, et Tollet, croient à la réalité du pacte, du transport au sabbat, du sabbat lui-même. Ils croient que c'est réel. Et ce ne sont pas 2 petits noms de la théologie. Cependant, il y a d'autres doctrines qui circulent, qui sont également reçues. D'abord, la doctrine des inquisiteurs. Les inquisiteurs du XVe et du XVIe siècle ont publié des manuels pour guider les juges, pour guider leurs confrères. Que faut-il demander aux sorciers ? Comment faut-il considérer ces affaires ? Et le manuel le plus célèbre, celui qui a fait autorité, c'est le fameux marteau des sorcières, Malleus Maleficarum, qui a été publié à la fin du XVe siècle et réédité 20 fois ensuite. C'est vraiment l'évangile des inquisiteurs. Et vous remarquez que les inquisiteurs suivent généralement la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Toutefois, ils ont tendance à l'interpréter très libéralement. Enfin, ils donnent plus de pouvoir aux démons et aux sorciers que ne leur en donne saint Thomas d'Aquin. Bien que tous ces inquisiteurs soient des dominicains, en principe, ils devraient suivre très fidèlement saint Thomas. Alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que les plus, comment dirais-je, portés à à valoriser les pouvoirs du démon et des sorciers, ce sont les juges laïcs. Alors les juges laïcs, alors eux, pour eux, tout ça, c'est entièrement vrai. Nous avons plusieurs ouvrages publiés au début du 7e siècle de juges laïcs, de jurisconsultes. Henri Boguet, Discours exécrable des sorciers, 1603, Pierre de Langue, Pierre Hérault, Le Loyer. Baudin, Jean Baudin, le grand jurisconsulte Jean Baudin, qui est tant admiré, apôtre de la tolérance, dit-on, père des esprits modernes, père du droit moderne, et ainsi de suite. Il a écrit un livre qui s'appelle « Démonomanie des sorciers », publié en 1579, mais c'est effrayant. Si on le suivait, on arrêterait des sorciers tous les jours. Satan, dit-il, leur donne un pacte et leur fait signer ce pacte, et il leur fait signer de leur sang. Il croit à la réalité du transport. Il raconte des histoires incroyables dans sa démonomanie, en particulier l'histoire de la sorcière de Loche. La sorcière de Loche qui, un jour, c'est une sorcière donc, qui est mariée, et un beau jour, son mari la voit qui se graisse et qui part par la cheminée. Il se dit, ben alors quoi, et moi? Alors il en fait autant, et lui aussi, voilà parti. Et alors il rejoint sa femme dans les Landes de Bordeaux. Je ne sais pas, vous savez, Loche est sur la Loire, c'est quand même assez loin. Et la sorcière, elle, rentre par le même chemin, c'est-à-dire par la voie des airs, mais lui, le malheureux, est obligé de rentrer à pied. Et alors ça l'a beaucoup tracassé, c'est à la suite de cette affaire qu'il est allé dénoncer son épouse. Voilà l'histoire que raconte Baudin, il en raconte plusieurs de ce genre. Voilà en ce qui concerne les doctrines. Alors maintenant, deuxième question, que faut-il penser des juges? Étaient-ils des obsédés? C'est la question que je posais, vous vous souvenez, en commençant. Je dirais que tous les juges, jusque vers 1640, ont cru dur comme fer au pouvoir démoniaque des sorciers. Seulement, selon les auteurs auxquels ils se référaient, inquisiteurs, docteur de l'Église, tel ou tel inquisiteur ou juge laïque, leur crédulité était plus ou moins grande. Alors certains étaient méfiants, circonspects, prudents, mais d'autres étaient de véritables enragés. Il y en a eu quelques-uns, et en particulier Nicolas Rémy, qui a exercé la fonction de juge en Lorraine à la fin du XVIe siècle. En 30 ans, d'après Étienne Delcambre, qui a étudié la sorcellerie lorraine, il aurait fait condamner 2000 sorciers. Pas tous au feu, quand même. Je trouve le chiffre très important et je souhaiterais qu'il soit un jour vérifié. Bon, donc il y a eu certainement chez des magistrats une obsession de la sorcellerie, une sorte d'obsession. On a exagéré ce phénomène d'obsession, mais il ne faut pas oublier l'existence de ces juges. En tout cas, ce qu'il faut préciser, c'est que ces juges n'ont jamais été obsédés au point de fabriquer eux-mêmes la sorcellerie, d'inventer un schéma et de l'imposer ensuite aux prévenus, aux inculpés. Les interrogatoires ne portent pas la trace d'une telle fabrication. Les interrogatoires sont menés avec beaucoup de modération et de discrétion. Et puis nous avons une autre preuve de cette réserve des juges, de ce respect par les juges de leur devoir de magistrat. Les réponses qui sont dans les interrogatoires sont extrêmement diverses. Vous comprenez, s'il y avait eu un schéma préfabriqué et imposé aux malheureux, aux malheureux inculpés, on aurait toujours la même chose. Or, on n'a jamais la même chose. Certes, on a les éléments principaux, on a la rencontre du diable, la première rencontre, on a le sabbat, on a les sortilèges, mais dans le détail, que de variété. Le diable, prenez par exemple le diable qui est au sabbat, mais il y a quantité de diables différents. Là, c'est toujours Satan qui est là, c'est le principal, il est entouré de diablotins, bon, mais lui est toujours là. Presque toujours. Non, il y a peut-être une ou deux procès que j'ai vus où il n'est pas là, il est représenté par un de ses lieutenants. Mais enfin, ce prince des démons, ici, je vois qu'il a des yeux de grisou, je ne sais pas ce que c'est, et des cornes de mouton, et qu'il rit. Mais là, il a la forme d'un mouton. Là, il est velu et cornu avec quatre cornes. Là, il est déguisé en crapaud. Ailleurs, il est déguisé en singe. Mais vous savez, il prend une infinité de formes. Et quant au sabbat, Mais le sabbat aussi est d'une extraordinaire variété. Il y a des traits permanents. Je vous parlais tout à l'heure du repas insipide. C'est vrai. Bon, il y a la chandelle noire, oui. Mais il y a quand même un déroulement très différent chaque fois. Il y a des orgies, il y a des danses avec musique. Il y a également des petits discours dans certains sabbats adressés par le diable à ses fidèles. Enfin, il y a une assez grande variété. Et puis, enfin, preuve que les magistrats ne sont pas aussi obsédés qu'on l'a dit. La répression n'est pas aussi rigoureuse que beaucoup d'historiens l'ont dit. Saumon, grand spécialiste de la sorcellerie du Parlement de Paris, montre que le Parlement de Paris, en appel, a réduit à 115, soit 24%, les 463 peines capitales prononcées en première instance en un siècle. Macfarlane, en Angleterre, sur 314 personnes condamnées, 36 condamnées à mort. C'est 36, peut-être 36 de trop, je ne sais pas. Mais enfin, 336 sur 314. Donc le tribunal de la sorcellerie n'est pas toujours, tant s'en faut, un tribunal de sang. D'ailleurs, en France, au moins, la répression diminue notablement d'intensité à partir de 1640. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on dépénalise la sorcellerie. Les ordonnances criminelles de 1670 et 1686 ne considèrent plus le crime de sorcellerie, ou plutôt ne le considèrent pas, parce qu'il n'avait jamais été inscrit dans les codes. Et les magistrats font comme s'il n'y avait plus de crime. La sorcellerie n'est pas un délit au siècle des Lumières. Pas un délit pour la justice, mais pas non plus un délit pour le clergé, et nous connaissons des évêques du siècle des Lumières qui refusent d'exorciser et qui interdisent à leurs prêtres d'exorciser. Alors évidemment, le fait de ne plus croire aux sorciers n'entraîne pas leur disparition, vous imaginez bien, au contraire. Et nous avons donc, au XVIIIe siècle, une sorcellerie importante, mais difficile à trouver parce qu'il n'est plus un crime. Nous ne connaissons au XVIIIe siècle que les sorciers mondains, car la sorcellerie s'adapte toujours. Et vous savez que le XVIIIe siècle est un siècle mondain, un siècle sociable. Alors le sorcier est un sorcier de salon. Oui, de salon. Il va dans les salons, il fait des tours de passe-passe, il prédit l'avenir. Et ainsi, nous avons Saint-Germain, nous avons Cagliostro. Saint-Germain qui affirmait avoir vécu plusieurs vies, qui avait connu la reine de Saba, oui, et qui avait bien connu Cléopâtre aussi. Et il avait vu le Concile de Trente. Et il disait qu'il avait été assassiné par les Rose-Croix, mais qu'ensuite il était revenu. Hein? Voilà le personnage qui a fait les beaux jours des salons parisiens. Et Cagliostro, c'est encore mieux. Cagliostro, Joseph Balsamo, son vrai nom, ancien moine, chassé de son couvent, fondateur d'une secte secrète. Et il rendit des oracles à Paris pendant plusieurs années. Il fut reçu à la cour. C'était une curiosité, alors on le reçut. Et c'est lui qui fit voir à la dauphine Marie-Antoinette, dans la transparence d'une carafe, la silhouette encore inconnue de la guillotine. Et puis, un beau jour, il disparut, et on le retrouva à Rome, et là, le pape le fit enfermer. Il passa le reste de ses jours en prison. Je terminerai par la dernière question. Et les sorciers, alors que faut-il en penser? Les sorciers, que faut-il en penser? Alors, qu'en ont pensé les historiens? Qu'est-ce que c'est que ces sorciers? Comment interpréter ce que font ces gens-là? Alors, il y a l'interprétation sociologique, Michelet, je vous en parlais tout à l'heure. La sorcière, parce que lui, il ne voit que des sorcières. Il y en a plus que des sorciers, c'est vrai. C'est la révolte de la femme opprimée. Cette interprétation sociologique a été reprise assez récemment par M. Muchin-Blé, qui est un de mes collègues de l'université, à propos du village de Bouvigny. S'il y a des sorcières à Bouvigny, c'est à cause des tensions sociales. En réalité, les causes fondamentales, je cite, les bûchers de 1679 doivent être cherchés dans le blocage de la société du temps. L'interprétation structuraliste se rapproche de l'interprétation sociologique. La sorcellerie fait partie des structures mentales. La croyance à la sorcellerie fait partie des structures mentales à une époque donnée. S'il y a des sorciers, c'est parce que les gens sont fabriqués que dans leur cerveau de telle et telle manière. Alors ils croient à des sorciers. C'est une des pièces du dispositif mental de l'époque. Robert Mandrou, qui a été professeur à Paris 10, à Nanterre, a enseigné cela, il a écrit cela. C'est commode, parce qu'avec un système de ce genre, il n'y a pas besoin de connaître la sorcellerie dans le détail, finalement. C'est très simple. puisque ça fait partie des structures mentales. L'interprétation survivance du paganisme aussi est intéressante. Elle a été soutenue, elle a été défendue par Madame Murray en 1924 dans un livre sur les sorcières anglaises. Bon, plus sérieuse quand même me paraît l'interprétation de Mircea Eliade. Dans un livre publié en 1978, Occultisme, sorcellerie et mode culturel. Alors voilà ce que dit Eliade en un mot. Pour lui, il s'agit de pratiques ressortant un schéma religieux. C'est déjà plus intéressant. Et je cite, il s'agirait d'une véhémente protestation contre la situation politique et sociale contemporaine, suscitée et nourrie par l'espoir de recouvrer un état de perfection béatifique. C'est bizarre, mais enfin, c'est moins primitif que l'interprétation sociologique ou structuraliste. Et d'ailleurs, Eliade ajoute avec un grand bon sens, il nous faut aussi tenir compte de l'irrésistible attraction que le mal exerce sur certains types d'individus. Bon, alors, quant à moi. Bien, simplement deux remarques que vous voudrez bien ne pas qualifier d'interprétation. Formulerai deux remarques pour finir. D'abord, la sorcellerie est un fait. Il y a des hommes et des femmes qui croient au diable, qui l'invoquent, qui se sentent entraînés vers le mal et qui s'abandonnent à cette tentation. Alors, quelle forme prend cette rencontre avec le mal ou avec Satan? Nous ne le savons guère. Nous avons ces récits, des interrogatoires, c'est une indication. En tout cas, ce que je dis, c'est que les documents portent la trace d'une expérience. Il s'est passé quelque chose. Et il faut être un historien inconscient pour prétendre que tout cela sort de l'imagination des magistrats. Ou même des sorciers. Je vous cite une des sorcières de Bouvigny. Ses juges lui font remarquer que c'était un crime abominable de s'engager au diable de cette manière. Et elle fit cette réponse, qu'elle le savait bien, mais qu'elle avait une petite foi et qu'elle n'a pu résister. Voilà ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est que la sorcellerie appartient à l'histoire générale de la superstition. Qu'est-ce que la superstition? C'est adorer la créature au lieu du créateur. Et ben c'est cela, finalement, la sorcellerie. C'est adorer le diable au lieu d'adorer Dieu. Nous avons deux formes de superstition dans ces affaires. Nous avons d'abord la superstition des magistrats quand ils accordent au diable plus de pouvoir qu'il n'en a. Et puis nous avons la superstition des sorciers qui font ou croient faire un pacte avec le diable et qui attendent de lui toutes sortes de choses. C'est de la superstition caractérisée. Ce n'est pas une religion à l'envers. Une religion inversée, c'est la négation de la religion. Pourquoi? Parce que c'est la négation de la providence, la première rencontre. On veut être heureux à la chasse, on veut séduire des femmes. C'est comme ça que commencent les affaires de sorcellerie. Eh bien, on ne fait plus confiance dans le Créateur, on ne fait plus confiance dans la Providence, on s'adresse au diable pour avoir des plaisirs. C'est la négation de la transcendance, puisqu'on préfère la créature, et puis c'est la négation même de l'être, puisqu'on préfère les illusions à la réalité. Alors, il est tout à fait intéressant, j'ai déjà fait observer, tout à fait intéressant de remarquer que ce phénomène de la sorcellerie atteint son paroxysme en France et dans l'Europe occidentale entre 1580 et 1630, c'est-à-dire au moment où la réforme catholique issue du Concile de Trente a commencé son entreprise de christianisation, de re-christianisation. Saint François de Sales, Bérulle, Madame Acari, Saint Vincent de Paul, vous connaissez ces noms. Vous savez que ce qui caractérisait la réforme catholique issue du Concile de Trente à ses débuts, c'était d'abord l'infini respect qu'elle avait de Dieu, sa grande confiance dans la Providence et dans la toute-puissance divine, son sens très élevé de la transcendance. Je pense que peu d'époques ont eu comme celle-là le sens du sacré, le sens de la consécration à Dieu. Et voyez ces nombreux ordres religieux qui naissent à ce moment-là, ces ordres féminins surtout si nombreux. Alors la sorcellerie et la possession nous apparaissent en somme comme une réaction contre la réforme catholique, comme un refus de tout cela qu'elle propose. C'est, si vous voulez, un peu la réponse de la bête à l'appel de l'ange. Et il y a une très formidable tension dans la société occidentale, la société chrétienne occidentale, dans ces années de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Et la sorcellerie est une réponse au Concile de Trente. Je remarque que la sorcellerie connaît une recrudescence dans les époques de christianisation. C'est logique, le diable résiste. Et qu'elle se manifeste aussi dans les temps de déchristianisation accélérée comme le nôtre. Voyons bien, notre siècle se détache complètement du Christ. Et la sorcellerie n'a peut-être jamais autant prospéré. Un exorciste me le disait il n'y a pas tellement longtemps qu'aujourd'hui, depuis l'Antiquité. Et cela aussi, c'est logique. La sorcellerie, c'est l'antitranscendance. C'est finalement le manège honteux, misérable de l'homme retombé sur lui-même. Je vous remercie. Oui. Ah ben oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais là, la glossolalie, la lévitation, la révélation des choses cachées sont des phénomènes dont les exorcistes ont relevé la fréquence, la permanence, et l'Église, dans sa sagesse, y attache une certaine importance. Dans les bulles pontificales du XVIe et XVIIe siècle, ces phénomènes sont relevés et considérés comme des critères de possession. Alors, la déclaration du 26 juin 1975 de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, qui parle de l'existence du démon, n'en parle plus de cela. Mais on en a parlé, ça fait partie de la tradition de l'Église. Par contre, le fait que les gens s'enfuient par la cheminée en s'étant graissés sur tout le corps, ça n'a jamais été relevé par l'Église comme effectivement un signe de sorcellerie ou de possession, bien sûr, bien sûr. Ben oui, je vous accorde tout à fait cela. Oui, madame. Oui, je sais.
Je sais. C'est écrit en
clair. Oui, oui. Oui, je sais.
C'est très tentant pour.
Bien sûr, il y a des rues entières à Paris, je ne sais sans doute ici aussi à Lyon, mais à Paris, je vois certains quartiers, il y a des librairies qui se consacrent uniquement à cela. Pratiquement à leur guérison. C'est mélangé avec la diététique. Les livres des guérisseurs, puis les sectes aussi, la dianétique, la méditation transcendantale, c'est un affreux mélange. Et la sorcellerie, effectivement, fait partie de cette production. Ah oui, il faudrait mettre en garde. Mais qui mettra en garde? Oui. En tout cas, les exorcistes que je connais sont extrêmement impressionnés par cette recrudescence de la sorcellerie urbaine. À cause justement de la vente de ces ouvrages, mais aussi par la vente d'objets qui seraient infestés, d'objets venus d'autres régions, n'est-ce pas, du tiers-monde. Ça aussi, c'est une cause de sorcellerie, une cause d'infestation diabolique.
Ce qui est frappant, c'est le
trigramme. Oui. Ah oui, bien sûr, le tétragrammaton. Oui. Bien sûr. Ah ben bien sûr, on le trouve sur bien des caractères qui sont recensés. Oui, madame.
En tant que personne qui a le droit de patient
dans
le médecine, est-ce que vous croyez pas que les gens qui sont en médecine,
ah, oui.
Quand on arrive à quelque chose, on vient dialoguer avec eux.
Vous voulez parler des possédés? Oui, madame. Oui, mais vous savez, moi, je ne me pose pas la question des possédés d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas compétence. L'Église seule a compétence pour reconnaître le possédé et les signes de la possession. C'est extrêmement difficile parce que beaucoup de gens se croient possédés ou leur entourage les dit tel, alors qu'ils sont simplement malades, c'est certain. Mais très souvent, comme le disent aussi les exorcistes, il y a mélange, c'est-à-dire qu'il y a faiblesse psychologique, défaillance, que sais-je, et puis infestation, début d'infestation diabolique, sinon possession, la possession étant le dernier stade, le moment où le diable soumet vraiment la personne à sa domination. Mais il y a des infestations moins graves. Oui. Oui, madame. Oui. 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 Pardon. Des exorcistes. Oui, madame, il y en a un dans chaque diocèse. Seulement, je vais vous dire. Non, mais il y en a un dans chaque diocèse. L'évêque doit en nommer un. Mais je racontais tout à l'heure à M. l'abbé Troadec, et je lui racontais l'histoire suivante. J'ai été invité il y a quelques années à faire une petite conférence, parce qu'on savait que j'étudiais l'histoire de la sorcellerie, aux exorcistes des diocèses de l'ouest de la France. Il y avait là une quinzaine d'exorcistes. Bien, j'ai refait ma petite conférence, et puis après nous avons déjeuné, et je me suis aperçu qu'il y avait deux personnes qui croyaient au diable dans cette assemblée. C'était l'exorciste qui m'avait invité, puis moi. Et puis moi. Je n'invente rien. L'exorciste du diocèse de Paris, de cette époque, il y a 7 ans de ça maintenant, ne croyait pas au diable. Et le mal. Alors, certains exorcistes, moi, il y en a quelques-uns, je ne donne pas les adresses parce que les pauvres gens, mais ils sont déjà accablés de travail, mais il y en a quelques-uns quand même, dans certains diocèses. Oui, madame. Ah, ça, je ne sais pas, madame, ça, je suis incapable de vous le dire. Je crois que, on dit que, oui, c'est ça, mais je crois qu'il y a des pratiques de ce genre, on les trouve dans certaines régions rurales, et il y a 10 ans, Madame Favre-Saada, sociologue au CNRS, a fait un livre consacré à la sorcellerie de certaines régions rurales, de l'ouest de la France en particulier. Et elle a décrit des pratiques de sorcellerie et des messes noires, elle a parlé de messes noires. Mais c'est tout ce que j'en sais. Oui, le Berry, bien sûr, le Berry, la Mayenne, les régions de Bocage, surtout. Oui, les envoûtements. Oui. Tout le monde en rencontre. Oui, madame, vous vouliez dire quelque chose. Ah, mais c'est la magie. C'est la magie, madame. C'est de la magie. C'est pas là. Non, ça, la magie, ce sont des traités de magie qui sont très anciens, qui ont été remaniés plusieurs fois. D'ailleurs, qui sont des recueils, des compilations de pratiques, mais qui n'ont pas un seul auteur, et qui s'accroissent d'ailleurs, qui sont republiés récemment.